Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Cédric Fuentes, Julien Rosa et Iseut Sicard. À la réalisation Marie Placé, prise de son Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besri.
Troisième jour de notre série sur les prisons intitulée « Économiser et punir ». Après avoir traité hier de la zone de flou qui entoure le travail en prison, nous prenons aujourd'hui le biais de la fiction pour évoquer le quotidien en milieu carcéral. On le sait, la prison est depuis son invention un motif artistique, littéraire et cinématographique qui oscille entre témoignages et dénonciations. Si l'enfermement, la promiscuité des corps, la violence incitent au récit, la recherche esthétique n'en reste pas moins au service d'une réflexion socio-économique fondamentale. Ainsi, les représentations de l'expérience pénitentiaire que nous livre le cinéma, mais aussi désormais les séries, sont autant d'occasions de s'interroger sur les capacités de l'institution à remplir sa mission. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler des représentations de la prison dans la fiction, compagnie de Carole Desbara, ancienne directrice d'études à la Fémis, auteure de l'article « Orange is the New Black » des femmes en prison paru dans la revue Esprit. Également avec nous Alice Gaillat, doctorante en sociologie au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, et vous rédigez une thèse sur les sorties de délinquance juvénile. Vous êtes également auteur de l'article « Accompagner la désistance des mineurs délinquants, représentation et pratique des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ». Et c'est dans l'ouvrage « Jeunesse de rue, représentation, pratique et réaction sociale » rédigé par Manuel Boucher et publié chez L'Harmattan. À 14h50, ce sera comme toujours Arjuna Andrade qui viendra nous donner des nouvelles de l'écho. Carole Desbara et Alice Gaillat, bonjour.
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 Allez, viens là, toi.
T'as quel âge ?
19 ans, pourquoi ?
Tu me regardes pas quand tu parles, tu regardes le mec qui est à côté.
Oh, c'est moi que tu regardes.
On m'a dit que t'avais pris 6 ans. Putain, ça va être long, 6 ans. Hein. T'as déjà eu des problèmes dans la cour, tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection ?
Je tiendrai le temps qu'il faudra. Vous voulez quoi, là ?
Te protéger. Tu parles arabe ?
Ouais, je parle arabe.
Il y a un mec qui t'a parlé dans les douches. Tu le connais ? Qu'est-ce qu'il voulait ?
Je sais pas, il voulait parler. Pourquoi ?
Me regarde pas, je te dis. Parce que je veux que tu continues. Je veux que tu t'approches de lui, que tu deviennes pote avec lui.
Pourquoi ?
Parce que tu veux le tuer. Capiano. Approche-toi. Approche-toi après lui. Mais je crois que tu peux le faire. Tu vas pas être seul, on va être avec toi. Mais dis-toi bien une chose. À partir du moment où tu le sais, si tu le tues pas, c'est moi qui te tue. Ok, ça va, casse-toi.
Oh, c'est clair. Attends, tu te casses et tu fermes ta gueule, t'as compris ?
Carole Desbara, on a effectivement bien compris, il s'agit d'un extrait du film Un prophète, réalisé par Jacques Audiard en 2009. Et là, on se retrouve dans une situation entre fiction et documentaire, ou dans une situation de film documenté sur l'univers carcéral. On retrouve l'histoire de Malik, justement jeune délinquant de 19 ans, qui fait son premier tour dans la cour des prisonniers. Et là, il a affaire au baron.
Mais au parrain.
Au parrain
corse en plus, Luciani, magnifiquement joué par Nils Arestrup. Il faut dire que c'est Arahim, dont je crois que c'était le premier rôle, qui joue le jeune Malik. Malik en arabe, ça veut dire roi. Il va le devenir, mais il ne l'est pas au début, comme on l'entend. Et là, on est tout à fait au début du film, et quand vous avez bien raison quand vous dites que c'est documenté, parce que la théorie cinématographique nous apprend que dès qu'il y a un cadre, dès qu'il y a du montage, il y a fiction, même dans ce qu'on appelle les documentaires. Donc partons de fiction documentée, et puis c'est quelque chose qui marque les films de ces 10, 20 dernières années, peut-être sous l'influence des séries d'ailleurs, ils sont très très renseignés. Je parle sous le contrôle de Madame Gaillat qui va ou non confirmer ça, mais il y a quand même chez les scénaristes la volonté de rechercher une observation proche de ce qu'ils vont traiter, et ensuite fictionner, bien sûr.
Alors, on retrouve dans Le Prophète cette idée d'un parcours initiatique. On suit ce point de vue qui est celui de Malik, de ce jeune prisonnier, de ce jeune détenu, et on va apprendre avec lui les codes de l'univers carcéral. Alice Gaillac, qu'est-ce que, finalement, cet extrait nous dit du monde de ce huis clos, et finalement, cette prison qui se retrouve dans la vie toujours un peu hors champ, puisque c'est un univers reclus, c'est un univers qu'il est difficile d'appréhender, de visiter. On sait aussi, du point de vue des journalistes, à quel point il est difficile d'obtenir des autorisations d'entrée, d'interview, à quel point tout est finalement un peu mystérieux, si ce n'est les récits que l'on peut en recueillir a posteriori. Alors justement, comment est-ce qu'on peut pénétrer de manière réaliste cet univers carcéral ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'univers carcéral, les codes de l'univers carcéral sont similaires aussi aux codes de la rue, des codes qui s'appuient sur la virilité, mais aussi sur le fait de devoir trouver une place dans cette rue, d'appartenir à un groupe, de vivre et parfois aussi de survivre, parce que la rue, tout comme l'univers carcéral, n'est pas que lieu de solidarité entre pairs, PAIRS, mais aussi peut être un milieu très hostile finalement, et où il y a besoin d'être protégé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend dans cet extrait, être protégé par les plus grands, par les plus anciens aussi. Voilà.
C'est un retour en même temps à un univers de jungle, un univers de loi du plus fort. Et on retrouve cette sociologie qui a été reprise, alors à la fois par le cinéma, mais aussi beaucoup par les séries, l'idée qu'il y aurait une sociologie particulière des groupes, alors des minorités, des groupes ethniques, des groupes identitaires, pour tout un tas de raisons. Alice Gaillac, quelle est la réalité de ces représentations-là?
C'est une bonne question.
Là, ce sont les Corses qui sont vus comme le groupe puissant.
Oui, effectivement. Alors, moi, je travaille principalement sur des personnes qui sont sorties de la délinquance et puis aussi sorties d'un milieu carcéral. Ce qui est certain, c'est que ces personnes se retrouvent avec des pères semblables, des pères qui ont aussi des histoires communes, c'est-à-dire qui ont vécu des formes de précarité, alors qui peuvent être de l'ordre de la précarité familiale, sociale, et qui ont toutes et tous connu aussi de la ségrégation finalement. Et ça peut être aussi lié, effectivement, à une appartenance culturelle.
Finalement, le monde clos de la prison, il pose la question du miroir, du miroir de l'extérieur, l'extérieur étant hors champ. Là, dans ce film, Un prophète, justement, le huis clos est cassé. On voit aussi les sorties, les permissions, l'autorisation d'être au dehors. Il y a eu une volonté, justement, de créer quelque chose d'un peu nouveau.
Oui, et en même temps, c'est peut-être avec les échappées fantastiques qu'il y a dans le film que Audiard crée ce qu'il y a de plus nouveau. Qu'on sorte des murs ne veut pas dire pour autant que la prison soit absente. C'est-à-dire qu'il sait qu'il doit revenir et il sait qu'il doit avoir fait, je parle du personnage principal, un certain nombre d'actes dont il est redevable vis-à-vis du parrain Luciani. Donc en fait, l'extérieur n'est que jamais qu'une extension de la prison.
Donc c'est une continuité qu'on trouve entre le dedans et le dehors.
Oui. Et c'est important ce que vous disiez par rapport à la représentation sociale dans la prison. C'est un miroir de la société, oui et non. Parce qu'il y a surreprésentation de certaines populations. C'est-à-dire que là, dans Le Prophète, il y a deux clans essentiellement, le clan des Corses et le clan des musulmans. Le film date quand même d'il y a presque 10 ans. Donc la représentation des Corses est plus puissante qu'elle ne le serait s'il filmait aujourd'hui. Peut-être qu'il y aurait une inversion entre les clans. Et on voit à quel point En France, c'est déjà sensible, mais aux États-Unis, encore plus.
Alors, d'autant plus qu'on ne sait pas ce qui fait groupe. Est-ce que c'est, vous évoquez, vous dites musulman, est-ce que c'est un groupe culturel? Est-ce que c'est un groupe de langue? Est-ce que c'est une religion qui va créer un clan? Tout ça n'est pas très clair, en tout cas pour le spectateur. La seule chose que l'on entend, c'est effectivement la loyauté et la trahison dans les propos, justement, à savoir, tu parles arabe, donc tu vas pouvoir te faire son ami et le tuer.
Mais effectivement, c'est un mélange, c'est-à-dire que lui, le personnage principal, ne va pas jouer la carte du musulman. Ça va pas être sa façon de procéder. En face de lui, il a un clan qui joue sur tous les tableaux, ce que vous avez dit. La religion, la langue, l'origine culturelle, qui effectivement fait que on se construit ensemble contre le reste du monde. Et c'est le système de toutes les communautés. Et c'est vrai que... c'est important parce que narrativement, c'est là la force d'Audiard, c'est que narrativement, Audiard s'est servi de ça pour faire que son parrain voit sa puissance décliner au fur et à mesure que le film avance. Parce que, par exemple, tout simplement, les prisonniers corses sont envoyés en Corse pour être incarcérés en Corse. Du coup, il a moins de troupes, du coup, il est moins puissant.
Alors, le déclin du parrain, ça correspond aussi à deux âges de la vie, un âge de la maturité et du déclin, et l'âge de la montée en puissance du jeune Malik El-Djebena. Qu'est-ce que ça nous dit, Alice Gaïa, justement, de ce parcours de jeune prisonnier? Alors là, c'est un prisonnier qui est majeur, il a 19 ans, mais c'est un tout jeune majeur que l'on retrouve là, à peine un adulte, qui se retrouve dans un monde dans lequel il est extrêmement méfiant. Effectivement, il va y avoir la recherche de protection et dont il doit apprendre absolument tous les codes, alors à la fois les codes de promiscuité physique, mais aussi les codes de fonctionnement et l'illégalité au milieu de ces codes, hein, les prises de liberté des prisonniers.
Effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est... alors, on a l'habitude de parler des carrières délinquantes, de l'engagement dans les carrières délinquantes et très peu du désengagement, du désengagement délinquant. Et le rôle de l'âge est très important dans ces processus de délinquance, mais aussi de sortie. C'est-à-dire que à l'adolescence, et vous faites bien de parler de l'âge, à l'adolescence, c'est un moment où on va commencer à vouloir alors jouer. Alors certains, je mène des entretiens auprès de personnes qui ont été condamnées et donc qui disent mais moi je voulais jouer le petit caïd en fait. C'était un rôle, alors un rôle aussi qui permettait de vivre, hein, de gagner de l'argent. Donc ce n'est pas seulement qu'un jeu. Et donc c'est aussi un moment où ils voient les plus grands, les plus anciens y arriver dans cette carrière délinquante et qui en devient finalement une profession. Et donc cette possibilité-là, c'est une opportunité de réussir dans sa vie, surtout quand à côté, il y a très peu d'opportunités telles que l'emploi, une vie de famille, où là, ça reste encore très précaire et très fragile. Et donc, les personnes vont davantage se tourner vers les carrières délinquantes. Mais en fait, en réalité, très peu se tournent vers ce chemin-là. La plupart se tournent vers l'autre chemin.
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la carrière qui commence tôt, la carrière délinquante, comme vous dites, puisque c'est l'expression que vous utilisez, justement, ces premières condamnations ne sont pas du tout un gage d'un ensemble de condamnations qui vont suivre ?
Pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que les personnes, on peut voir en sociologie que finalement les carrières délinquantes sont courtes. Il y a très peu de longues carrières délinquantes. Il faut des compétences déjà pour ça. Il y a des risques à prendre quand on s'engage dans une carrière délinquante, particulièrement dans le trafic de stupéfiants, par exemple. Il y a une vraie hiérarchie, il y a de vrais risques. Que lié à cette on pourrait dire ce travail. Donc, avec l'âge, finalement, on va petit à petit se résigner en quelque sorte à même si c'est une vie précaire, à une vie plus tranquille.
Alors, c'est comme dans les films, Carole Desbarra, c'est la figure du gangster que l'on retrouve avec le risque de la mort, lié aussi au trafic, à cette économie parallèle, souvent d'ailleurs parallèle à une économie licite, bien précaire ou qui met en difficulté certaines populations peu qualifiées.
Tout à fait. Il y a dans la représentation des prisons, que ce soit dans les films ou que ce soit dans les séries, il y a toujours une double économie. Si ce n'est pas une triple. C'est-à-dire, il y a l'économie institutionnelle, la cantine, etc., le fait de cantiner. Il y a l'économie mafieuse. Il y a l'économie qui est importante aussi de l'extérieur, c'est-à-dire comment la famille apporte des choses aux prisonniers.
Donc c'est les dons.
Voilà, tout ça joue terriblement et c'est évidemment très, très riche sur le plan narratif. Quoi. Ça permet de... Il y avait un beau film qui était à l'orée de la prison, qui est « Qu'un seul tienne et les autres suivront » de Léa Fener, qui se centrait sur le parloir. Et c'était surtout sur le parloir. Et c'est assez rare d'avoir les films qui sont centrés là-dessus. Et le lieu montrait justement ces échanges affectifs, linguistiques, sociaux et évidemment économiques.
Alors là, dans Le Prophète, c'est d'ailleurs, ça devient un objet esthétique et une manière de ponctuer la narration, hein, de séquencer, que de montrer ces étapes du parcours du personnage justement principal. Alors le personnage principal, lui, va faire une carrière, une carrière de gangster. Et finalement, il y a cet apogée qui va arriver. C'est la construction à la fois d'un personnage héroïque, mais aussi d'un business.
Ah, tout à fait, parce que il a appris. En voyant faire Luciani, tout comme, je ne sais pas moi, dans un film où vous auriez Al Capone et vous auriez le lieutenant qui apprend à côté, ou dans Les Parrains de Coppola.
C'est donc il y a un film d'apprentissage.
Mais bien sûr, et il met en pratique. Mais surtout, ce qui est passionnant, je trouve, dans le personnage qui, pour moi, sauve un peu le film, parce que je suis un petit peu critique sur le film, mais ce n'est pas le sujet.
Ça peut l'être aussi.
Non, mais c'est la façon dont ce personnage qui a 19 ans rentre, ne sait pas lire ni écrire. Alors il va apprendre tout, il va apprendre les rapports de classe, il va apprendre les rapports de pouvoir, il va apprendre la culture, il va ensuite faire son propre business. Et tout ça avec des questions où il évite les questions de morale assez fortement, ce qui le rend très intéressant.
Mais il y a cette tension, cette contradiction au sein de la prison, puisqu'on voit l'école du crime, puisque c'est le sujet principal, mais on voit qu'aussi effectivement c'est un lieu d'apprentissage, la prison.
Clairement, vous savez, moi j'ai eu... C'est une anecdote, mais j'ai eu l'occasion de faire 3 cours en prison, de donner 3 cours à un prisonnier. Il y a un vrai travail. On était sur un scénario, c'est du cinéma, et on était en train d'imaginer ce qu'il voulait filmer et qu'il allait demander aux étudiants de l'École supérieure d'audiovisuel de Toulouse de filmer pour lui. Et il apprenait, et j'étais en situation pédagogique un peu particulière, c'est vrai parce qu'on était enfermé dans sa cellule, mais effectivement, une situation où il y avait un apprenant et un enseignant.
Alors, petite particularité peut-être d'un prophète dans son procédé, cette caméra qui quand même aussi arrive sous les douches et parle aussi des corps, du viol, des questions justement de tensions qui peuvent exister là-bas, y compris physiques. Il y a cette idée d'une caméra qui surveille. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la caméra cinématographique, dans cette période où les caméras, elles sont aussi là pour surveiller ?
Ça dépend de la série, ça dépend du film, ça dépend du projet, si vous voulez. C'est sûr que les 2 premiers grands films qui ont marqué le démarrage, en France en tout cas, des films de prison, qui sont d'une part Le Trou de Jacques Becker en 59, et d'autre part Un condamné à mort s'est échappé de Bresson en 56, ne fonctionnent pas comme ça du tout. On ne voit pas l'espace, on est incapable de voir la prison. Parce qu'effectivement, on est avec le prisonnier, on est dans l'espace fragmenté du prisonnier. Évidemment que Bresson, dans son épure janséniste, a joué là-dessus pour nous étouffer encore plus, nous spectateurs. Mais il y a aussi qu'on n'a pas, en 59, la culture du drone, quoi, qui va surplomber effectivement le plan général, qui va vous montrer la prison de l'extérieur, ce qui ne va aujourd'hui pas choquer le spectateur qui ne va pas se sentir déstabilisé. C'est pas parce qu'on lui a montré l'extérieur de la prison qu'il a complètement lâché l'identification au prisonnier. Il y a une évolution de la sensibilité des spectateurs.
D'autant plus qu'elle n'est pas encore, la caméra à cette époque, un objet de surveillance à l'intérieur des prisons, comme elle a pu être en débat justement dans les médias, Alice Gaillard.
Oui, alors effectivement, par rapport à cette surveillance, et je trouve que plus globalement, ça pose des questions sur le rôle de la prison dans les trajectoires de délinquance et aussi de sortie de délinquance et de réinsertion. Est-ce que elle est de surveiller, de contrôler? Est-ce que elle est de d'insérer? De ce que j'ai pu voir par rapport toujours à des représentations donc d'anciens condamnés, de personnes aussi qui ont connu la prison. La prison n'a pas servi dans leur trajectoire de sortie de délinquance, dans le sens où elle ne les a pas aidés, en tout cas. Ça a été plutôt un obstacle dans leur trajectoire de sortie, plus que une possibilité, une opportunité de réinsertion. Alors effectivement, c'est vrai, c'est aussi un lieu où on peut avoir des cours, mais ce ne sont pas toutes les personnes qui vont s'engager dans ces ces cours-là.
Et c'est d'ailleurs le point de vue de bien des cinéastes aussi, que de dire que la prison n'aide pas nécessairement.
Maloney, vous imaginez? Vous avez 16 ans, là. On vous a laissé des chances, Maloney. Je ne sais pas quelle sera la décision de Madame le Président. Mais là, je demande que vous partiez en prison, là, maintenant. Peut-être que l'enfermement, ça va être un électrochoc. Et ça va vous permettre de vous poser, un peu. Mais utilisez la détention, si Madame le Président me suit dans mes réquisitions, pour essayer de construire quelque chose, de réfléchir. C'est ce que vous avez de mieux à faire, aujourd'hui.
Je vous remercie, Monsieur le Procureur. Je vous informe de ma décision.
Très bien.
Maître, sur les réquisitions.
Pour un avocat, c'est difficile d'entendre que la prison est un moyen d'apaisement pour un jeune homme. S'il faut lui dire aujourd'hui qu'il est responsable, moi je veux que vous lui disiez qu'il est en souffrance. Quelle prison soulage la souffrance? Il y a de l'autodestruction chez lui. Ce sont pas les murs sombres d'une cellule qui vont l'aider à y voir clair, à un âge où on s'interroge, où on cherche à savoir qui on est. Je vous demanderai, Madame le Président, de préférer un placement en centre éducatif fermé que de suivre les réquisitions du procureur.
Bien, merci, maître. Tu as la parole en dernier, tu ne veux toujours pas parler? Je vais vous demander de sortir quelques minutes, le temps que je prenne ma décision. Regardez ce jeune homme sous bonne escorte.
Alors c'est un extrait de La Tête Haute, hein, le film réalisé par Emmanuel Berco en 2015. On retrouve là, Alice Gaillet, les questions que vous venez d'évoquer. À quoi sert la détention? Quelle est sa pertinence? Est-ce que la détention serait l'occasion de se construire, de se poser, de retrouver quelque chose de soi qui aurait été brisé à l'extérieur? Ou est-ce qu'au contraire, elle va devenir cette école du crime que l'on a pu retrouver dans Le Prophète? Alors là, c'est l'expérience d'un mineur. Maloney est un mineur. Quelle est la particularité justement de l'expérience du mineur en prison?
Alors la particularité de l'expérience du mineur en prison, je ne sais pas s'il y a une particularité. En tout cas, la prison peut être une menace aussi dissuasive, alors qui est censée être dissuasive, et qui pour certaines personnes l'est. Finalement, j'ai pu rencontrer des personnes qui n'ont pas connu la prison ou qui l'ont connue une semaine et qui ont eu peur et où il y a aussi un traumatisme, parce que la prison, c'est aussi l'ennui, la solitude et tout ce dont on a parlé auparavant.
Alors, il y a des critères d'âge. On parle dans cet extrait de prison versus centre éducatif fermé. Donc là, il arrive à Maloney à cet âge charnière des 16 ans, avec le couperet de la condamnation à une peine ferme.
Oui, effectivement. Alors, le centre éducatif fermé, qui est donc une alternative à la prison, et donc ces centres éducatifs fermés qui sont aussi très variables, alors où on peut proposer des activités à la fois scolaires, mais aussi des accompagnements par rapport à la santé et par rapport des accompagnements psychologique, mais ça reste aussi un lieu où on se retrouve entre pairs, entre pairs semblables, avec les mêmes codes.
Mais il y a quand même les adultes, hein, les adultes qui apparaissent comme des rôles secondaires du film, d'ailleurs qui vont représenter chacun quelque chose de l'institution judiciaire. On retrouve aussi cette idée d'incarner à travers un personnage à chaque fois un rôle, hein, la particularité du rôle du juge, etc. Et on retrouve Carole Desbarra, justement, tous ces films quand même des dernières années qui se veulent très réalistes, qui s'inscrivent dans une forme de réalisme, en tout cas esthétique.
C'est sûr, et c'est aussi vraiment du Berco. Moi, je vois les films par l'angle du cinéma, avant de les voir par la prison. Et quand je vous entends parler toutes les deux du fait qu'il est mineur, c'est vraiment une préoccupation d'Emmanuelle Berco depuis qu'elle a commencé à faire des films, depuis son film de fin d'études. Elle travaille sur comment, si on a moins de 18 ans, on peut transgresser la loi. Alors, c'est peut-être la loi sexuelle pour la puce. Là, c'est la loi au sens le plus général du terme et avoir affaire à la justice. Donc ça, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Du coup, c'est vrai qu'à la fois, le personnage interprété par Catherine Deneuve est magnifiquement interprété par Catherine Deneuve et le personnage du référent, je ne sais pas quel terme technique qu'il faut prendre pour
l'éducateur de la protection judiciaire.
Voilà, merci. L'éducateur, ils ont des rôles qui sont identifiables à un rôle maternel et un rôle paternel. Il y a vraiment de ça. Et ça, c'est intéressant dans le film parce qu'on n'a pas affaire à des brutes épaisses. La justice étant représentée de manière sommaire, comme n'ayant aucun souci des justiciables. Et on a affaire à une juge, comme on se dit, ben, si on a un problème, c'est quelqu'un comme ça qu'on aimerait rencontrer, qui cherche à faire pour le mieux. Et c'est intéressant dans le film. Et du coup, il y a à la fois la justice avec un grand J, tout l'appareil institutionnel qui est représenté, mais il y a aussi une femme, et c'est le choix de Catherine Deneuve est très important parce qu'elle est très incarnée. Et le jeune John Parado fonctionne entre les deux. Et du coup,
entre la personne et l'institution. L'institution globale peut, elle, créer des violences, des tensions, etc. Mais il y a ces rencontres individuelles.
Tout à fait. Et effectivement, son apprentissage, parce que c'est là aussi un film d'initiation, là aussi un film d'apprentissage, va se faire sur va-t-il accepter ce qui lui est proposé ou pas.
Alors là, la particularité, c'est l'enfance. Quand même, l'enfance, puisqu'on le suit des débuts de son adolescence jusqu'à sa majorité, et il y a l'idée d'un effacement de l'enfance. On se demande jusqu'à quand il va avoir une autre chance. Cette question est travaillée tout le long du film.
Oui, et puis j'imagine volontiers que on pense aussi aux 400 coups, parce que c'est le film matrice par rapport à ce film-là, c'est-à-dire les 400 coups, c'est 59 aussi, et c'est ce petit Antoine Douanel qui vole délibérément jusqu'à se faire attraper, rentrer justement dans un centre lui aussi fermé, et essayer de s'en échapper. Le film se termine au moment où justement l'enfance est derrière lui. Il s'est échappé du centre, il court, il arrive à la mer, et l'image s'arrête sur lui. C'est-à-dire qu'il est passé de l'autre côté. Donc effectivement, c'est sûr que sur un plan narratif et scénaristique, on a besoin, quand on est autour d'une question d'enfermement et de prison, d'avoir une issue à la fin. Il faut arriver à sortir de là d'une manière ou d'une autre. Soit par la rédemption, c'est assez rare. La plupart du temps, c'est vrai qu'on nous présente la prison comme l'école du crime, comme on l'a dit sur le prophète.
C'est aussi un procédé qui marche mieux au cinéma,
oui,
peut-être.
Oui, et puis c'est aussi quelque chose qui, je crois, malheureusement, correspond quand même là au miroir de la société. C'est-à-dire que j'entends bien ce que vous dites, et je suis très intéressée par ce que vous dites, Alice Gaïa, sur les processus qui font qu'on sort et qu'on peut s'en sortir, mais c'est vrai que c'est pas l'image qui nous est donnée par la presse, par les études, et donc c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites. Du coup, effectivement, les scénaristes s'en sortent avec la gradation dans le crime, quoi. Allez.
La montée en puissance.
Comment ?
La montée en puissance.
Absolument.
walk slow. And it's gonna get good. And you gon' feel good. So get ready now, get ready, cause we gon' walk.
France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Bessery.
All right, we gotta hustle, because it comes soon. Rooms up there, dorms are down there. Now, you are not allowed down there. It's out of bounds for you guys until you get a sign there. You understand? Ah, namaste, Jones.
Namaste.
She teaches yoga if you ever want, and she's good. She's very spiritual. All right, we got some offices here. This is the dining hall, common room, counselor's office. Who you got for a counselor?
Healy.
Okay, yeah.
What?
It's fine. It does his paperwork, that's a good thing.
When do we get outfits like everybody?
I don't know, maybe tomorrow after breakfast you go down, you speak to the lady.
What the fuck?
Friend of yours?
No, it's my mom.
All right, Chapman, Diaz, this is you. DeMarco, this is Chapman, she's no. So, Sarandi, you show her what's what?
Sure.
Okay, Mendoza, this is Diaz. Go, go. She'll help you.
Espera un momento. Deme terminar esto.
I don't speak Spanish.
Great, another fucking coconut. What's the matter with your mother? She don't teach you Spanish.
Ladies, check door. There's some tissues.
C'est un extrait de la série Orange is the New Black qu'on entendait là, une série qui a commencé en 2013 et qui continue à courir sur plusieurs saisons, créée par Genji Kohan. Et là, c'est la saison 1, épisode 1. On rentre dans le monde de Piper Chapman, qui est incarcéré dans la prison de Litchfield, qui est une prison de sécurité minimale, qui est au départ, qui est une prison qui est en voie d'être privatisée, ce qui va poser tout un certain nombre de questions. Et là, on arrive au moment où elle se fait incarcérer. C'est la visite de la prison et Carole Desbarra, on voit en réalité, dans une prison, peut-être juste parce qu'on n'y a peut-être pas mis les pieds, tout est fiction. Tout, les gens qu'on y rencontre, le comptage, la manière dont les choses s'organisent, chaque réplique est une fiction.
Oui, parce qu'il faut qu'elle apprenne tout. Parce que ça ne fait pas partie de son réel pour l'instant. C'est au fur et à mesure qu'elle est en train d'intégrer ces morceaux de réel qui vont faire d'elle ce personnage. Et cette stupéfaction qu'elle a, c'est formidable de la vivre avec elle, quoi, parce qu'on rentre aussi, c'est un des grands classiques, je sais, des films de prison, le moment où la personne rentre et commence à connaître les codes. Et là, on voit, déjà on entend déjà, différents accents. Le fait que quelqu'un parle en espagnol, et c'est important parce qu'il y a aux États-Unis une surreprésentation de la
population hispanique.
La population hispanique, c'est quand même très clair que là, il y a un respect. Là, on est dans le miroir de la société, hein, au sens où elles sont très présentes à un moment donné même. Elles vont essayer de prendre le pouvoir.
Avec la jeune hispanique qui arrive et qui se fait gifler par sa mère qui elle-même est déjà en prison dans cette scène.
Vous la connaissez, c'est une amie. Non, c'est ma mère. Et on a des... Comme ça, très vite, en quelques minutes, on est tout à fait au début de la saison, on a l'héritage social. On a le fait que si la mère est en prison, la fille l'est aussi et que ça n'est pas étonnant. Et du coup, la question qui se pose sur un plan scénaristique, et on en discutait avant de venir à l'antenne avec Alice Gaïa, qui me disait, enfin, c'est quand même curieux que le personnage principal soit une blanche. Non seulement c'est une blanche, Piper, mais en plus elle est absolument ravissante. Vous rajoutez le fait qu'elle habite Brooklyn et qu'elle achète toute sa nourriture dans un magasin bio, et vous vous dites, qu'est-ce qu'elle fait dans ce milieu-là? Et c'est précisément ça du coup, mais c'est peut-être parce que je suis trop admiratrice de la série que je justifie tout, mais il me semble que c'est très intelligent sur le plan scénaristique, parce que du coup, ben voilà, tout est fiction. Effectivement, elle voit des choses qu'elle n'imaginait pas.
Et le spectateur s'identifie facilement à ces personnages. Alors là, il y a plusieurs questions qui sont évoquées, qui sont aussi des questions américaines. On voit là des choses qui sont un peu culturo-dépendantes. Les groupes, les minorités ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, il y a une accusation qui est faite au personnage hispanique d'être une bounty parce qu'elle ne sait pas parler espagnol. Elle se fait accuser par les autres détenus. Alors la question de la protection, elle est à nouveau traitée, Alice Gaya, dans les prisons de femmes. Mais on voit qu'il y a des particularités alors et culturelles et dans le fait que ce soit une prison pour les femmes.
Oui, alors encore une fois, des particularités, je sais pas, mais effectivement, on retrouve ce système de protection. Et quand même, pour revenir sur le point de cette femme blanche, finalement, qui est l'héroïne de la série, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que elle a pu amasser plusieurs capitaux, et notamment des capitaux scolaires, des diplômes, et qui lui permet aussi de jouer. Dans le avec les groupes, avec les différents groupes, même de, alors il me semble de monter un trafic
de culottes souillées,
exactement. Et donc c'est intéressant aussi de voir les différences de parcours et comment les personnes vont vivre la détention selon les parcours
individuels. Là, la question qui est posée, c'est justement, elle n'est pas dans un groupe qui a priori est très représenté dans les prisons, et pourtant elle y est, donc il y a une part d'individuel et pas simplement une part de collectif dans le fait d'être dans la prison. C'est peut-être un parti pris, Carole Desbarra, justement de l'auteur.
Ah, mais c'est clair parce que à plusieurs reprises dans la série, Piper dit j'avais le choix. Au moment où j'ai choisi de transporter cette valise de manière absolument illégale, j'aurais pu ne pas le faire. Et là, on a affaire au fait que les séries, les nouvelles séries, qui sont faites par des hommes et des femmes cultivés, qui travaillent, qui se renseignent, sont souvent traversées d'idéologies pensées, recherchées. Et là, par exemple, on a affaire à ce qu'on appelle le compatibilisme, c'est-à-dire cette théorie américaine qu'on trouve à partir des années 90, qui consiste à dire qu'on arrive peut-être à concilier le déterminisme social, celui qui fait que votre trajectoire, ça va être d'aller dans la prison, et en même temps le libre arbitre. Et le fait que le personnage principal, à plusieurs reprises, revendique son libre arbitre de faire le mal, renvoie à autre chose que simplement la description purement réaliste de la prison. Il y a aussi de l'idéologie, il y a aussi de la réflexion à l'intérieur de la série.
Alors ce que l'on retrouve un peu, c'est justement ce motif de la vie quotidienne, décrite un peu comme le serait un journal, comme le ferait un journal, hein, une vie très pratique, très matérielle, mais qui est tellement incarnée par le personnage de Piper Chapman que finalement, c'est la prison en elle que l'on retrouve. C'est son rapport à elle, à la douche, avant, après, avec l'extérieur qui est représenté par des flashbacks.
Oui. Mais vous voyez, on retrouve ce qu'on avait dit sur le prophète, c'est-à-dire en fait on retrouve des structures dans lesquelles il faut aérer la prison, surtout là on a quand même des dizaines et des dizaines d'épisodes de 50 minutes, donc c'est très très long et très très lourd, et c'est vrai que sortir un tout petit peu le spectateur de l'enfermement par le flashback, c'est quelque chose qui lui permet de respirer un peu. Il y a ça, et il y a aussi le fait que le personnage se promène, mais il n'est pas le seul à se promener, c'est-à-dire que c'est un film, c'est une série chorale dans laquelle, et ça c'est une des forces des séries, du troisième âge d'or des séries à partir de début des années 2000-2005, c'est le fait d'avoir beaucoup de personnages qui sont très importants. Elle n'est pas la seule à concentrer sur elle la narration, le récit, l'imaginaire. Il y a des personnages magnifiques autour d'elle qui sont pas aussi importants, mais presque, et qui ont leur vie et qu'on suit.
Alors l'extérieur existe, mais il est découpé dans le temps.
Oui.
Le rapport au temps de la prison, alors qu'est un rapport peut-être que vous avez entendu dans les enquêtes que vous avez menées à Alice Gaya, le temps de la prison, alors le décompte du temps, l'ennui, toutes ces descriptions qui sont faites aussi par les détenus.
Oui, exactement. C'est une pause, finalement, dans les trajectoires de vie. Un rapport au temps qui... donc un temps aussi qui est très lent, très long, notamment par rapport aux démarches administratives et aussi pour avoir des contacts avec l'extérieur, les courriers, etc. Clairement, c'est un espace où les personnes ne sont plus en contact avec, en tout cas, sont moins en contact avec leur famille. Et donc, il peut y avoir des ruptures de liens familiaux à cause de la prison.
Alors, il y a cet isolement qui est aussi une forme d'isolement politique et un oubli des prisonniers et de leurs conditions. C'est un débat aussi qui existe dans la série Orange is the New Black.
I mean, we have all met those CFOs who think that purchasing is only about cost reduction. But it's like, hello, haven't they ever heard of strategic sourcing, discount procurement, or commodity cultivation?
That's fascinating. I'm sorry to take us into choppy waters, but how do you respond to the critics who say the bottom line is affecting the prisoners' quality of life?
Well, that is a good question. And at the end of the day, it is a prison, not the Four Seasons. but all joking aside, we at MCC have found that the prisoners' quality of life has actually improved with the advent of...
Why don't you tell me you doubled the beds, Linda?
As I was saying...
Or tell them about how the food makes everyone puke. Or that Sophia Brissett is in the shoe for no reason.
Hey! That's enough.
If the gentleman is finished, there will be a Q&A
afterwards. Yeah, I'm finished, all right. I'm finished with a company that refuses to acknowledge what happens when we monetize human beings. I mean, do you even see yourselves? Magic lasers and prison ice cream. This whole thing is a disgusting display of how industry dollars are spent. And I was like you a few months ago. I used to come to this conference every year, and I never thought about the inmates. But maybe you're too afraid to admit it. But if you just go to my webpage, DannyTalksTruth.com.
Why don't you come with me?
Well, I bought a ticket like everybody else.
Hey,
I have a right to be
here. Why don't you let him go? He's harmless.
Don't call me harmless. But are you
Alors là, c'est la saison 4, l'épisode 5 de Orange is the New Black. Et Carole Desbarra, on assiste à une conférence puisque la prison a été privatisée par une entreprise appelée MCC. Il y a une grande conférence qui est donnée sur la réduction des coûts, l'organisation de la prison. Et comme ça, une plaisanterie est lancée par l'une des représentantes de la société en disant finalement la prison n'est pas non plus un hôtel de luxe. Alors là on retrouve cette idéologie puisque un personnage de la scène s'inscrit en faux et s'insurge contre ce qui vient d'être dit.
Oui, c'est une orientation un peu différente dans la narration qui est passionnante. C'est justement le côté économique. C'est comment la privatisation des prisons aux États-Unis induit des modifications énormes dans le ouvrez les guillemets, bien-être, fermez les guillemets, des inmates, des prisonnières. C'est-à-dire qu'on a doublé les lits. Il y a des lits superposés maintenant, ce qui veut donc dire qu'on double le nombre de personnes dans un espace donné. La nourriture arrive dans des sachets, et là, il dit que c'est en gros, c'est pas des excréments, mais presque, ça sort, si vous voulez.
Et que ça rend malade.
Ça rend malade, et puis il y a un moment donné, on voit un sachet qui explose, et une espèce de flot marron dont on ne peut qu'avoir une représentation absolument nauséabonde qui arrive. Et c'est vrai que nous est montré à la fois dans le temps, on parlait tout à l'heure de comment on prend le temps pour montrer justement cet alanguissement, cet ennui, mais aussi cet ennui, c'est au quotidien, comment on fait tous les jours quand on passe d'un endroit à l'autre, qu'on prend sa fonction et que ça prend effectivement un peu d'intérêt, mais aussi on voit comment dans les cuisines ça fonctionne. Et tout ce qui est un amenuisement systématique de la vie, qui est déjà difficile de ces prisonnières, c'est lié à cette boîte privée qui s'appelle MCC et qui est mise en cause ici. Et la description est très intelligemment faite. Là, dans le dialogue, il y a une mise en accusation. Mais dans les autres épisodes, on voit les choses faire et soi-même, on se forge une opinion. Soi-même, on se dit, c'est impossible de continuer à restreindre l'espace vital des prisonnières comme ça. Là, vous avez choisi un moment dans lequel c'est explicité, mais parce que c'est une série qui a des moments dans lesquels il faut rappeler à ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents ce qui se passe.
Donc, alors là, c'est vrai que dans cet épisode-là, on retrouve la question de la violence économique qui relaie aussi une violence politique, puisque on est dans une situation où les décisions vont dans le sens de la privatisation, de la réduction des coûts, et où il faut justifier ces mesures-là. Est-ce que, justement, cette autre forme de violence, qui est la violence, justement, budgétaire, économique, Alice Gaïa, elle est décrite par les prisonniers, les anciens prisonniers que vous avez interrogés ?
Ouais. Alors, l'accompagnement des sorties de délinquance se heurte clairement à une logique institutionnelle, gestionnaire, de flux, et puis une logique de gestion rapide aussi, des dossiers, des nouveaux arrivants. Ce qu'on peut retrouver dans les discours des anciens condamnés, c'est que finalement, ce n'est pas l'institution qui les a aidés dans leur trajectoire de sortie, mais je vous rejoins par rapport à tout à l'heure, ce sont des rencontres institutionnelles. Ce qui est
avec des substituts, hein, des sortes de substituts avec des parentaux, figures.
Exactement. Et par exemple, il y en a un que j'ai interrogé qui ne se rappelait pas du terme PJJ, donc protection judiciaire de la jeunesse, alors que il avait été suivi pendant longtemps dans cette institution. Et donc ce qui va jouer, c'est plutôt une personne, un tel. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des personnes qui, des acteurs institutionnels qui ont instauré un lien de confiance, un lien humain, et donc non pas un lien bureaucratique et rapide.
Alors le côté non conventionnel de cette série, Orange is the New Black, Carole Desbarat, c'est justement dans le fait que l'habit ne fait pas le moine et que ce personnage de Piper Chapman, cette jolie blonde que l'on voit appartenant à une classe relativement aisée, etc., va vivre cette expérience de la prison à la surprise de tout le monde, y compris sa famille. Et on va vivre aussi l'expérience du tabou que peut représenter la punition. Tabou d'ailleurs qui est mis au même rang que l'excentricité présentée comme telle de la jeune fille, son goût pour la drogue, son homosexualité à certaines périodes de sa vie, tout un tas de sujets qui en réalité sont des tabous de la société américaine.
Et qui génèrent la honte. Et la honte est un moteur narratif incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement on voit le fiancé, on voit les parents qui savent
la grand-mère.
La grand-mère, qui ne savent pas comment faire avec le fait que Piper est en prison. Et d'une certaine manière, elle, une fois qu'elle est en prison, elle s'en sort beaucoup mieux. Elle ne gère pas la honte, elle gère sa vie au quotidien, comment elle va survivre, ce qui est quand même une thématique qu'on trouve à travers tous les films et toutes les séries sur la prison, c'est comment on survit à cette épreuve-là. Et donc, elle laisse ce sentiment cuisant et monstrueux qu'est la honte à l'extérieur. Elle, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, elle va éventuellement revendiquer son acte en disant « c'est pas que j'avais raison de transporter cette valise, mais je n'ai pas refusé de le faire ». Donc, voilà. Ensuite, elle va suivre la même trajectoire que certains des personnages dont on a parlé depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle va devenir un petit parrain, une marraine à son tour. Elle aussi, elle va avoir son trafic. Elle aussi, je veux dire, comme Taha Rahim dans Un prophète, elle va prendre le pouvoir à l'intérieur de la prison. Mais oui, en laissant le sentiment de la honte sociale à l'extérieur. Oui.
En tout cas, du mensonge. Hein. On sait qu'au début où elle se fait incarcérer, sa mère dit qu'elle est partie faire de l'humanitaire en Afrique. D'où ces situations extrêmement cocasses. Il y a quand même cette représentation de la prison qui est il y a une mise en abîme. Quoi. C'est dans la série qu'on parle de la représentation de la prison dans la société.
Mm-hmm. Et puis là, aux États-Unis, la prison est encore plus redoutable du fait que, si vous voulez, il y a 7 fois plus de Noirs en prison que dans le rapport à la population noire aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de surreprésentation de certains groupes à l'intérieur des prisons qui font que pour une bourgeoisie blanche qui est telle qu'elle est représentée comme par les parents de Piper, c'est impossible. Vous rajoutez l'homosexualité, vous rajoutez
la drogue.
La drogue, et vous avez de toute façon là aussi le fait que Jenji Kwan, qui est la showrunner de la série, qui a lu Judith Butler, qui connaît très bien les théories de l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait que lorsqu'il y a discrimination, en général, il n'y a pas une seule discrimination, mais on vous discrimine parce que vous êtes femme, grosse, peut-être latino, et dealer. Et donc, effectivement, ça, c'est traité sur un plan narratif haletant, alors qu'en fait, si vous regardez la façon dont on pourrait le retrouver sur un plan théorique, c'est très impressionnant.
Alice Gaïa, vous, dans votre étude, vous avez étudié ces expériences juveniles de sortie de la délinquance. Il y a ce concept de désistance qui correspondrait à une sortie, un processus de sortie de délinquance. Et vous avez vu que, finalement, la prison avait peu pesé dans ce processus-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un personnage sort de la délinquance, ou qu'une vraie personne, plutôt, sort de la délinquance? Qu'est-ce qui n'est pas représenté dans ces séries et dans ces films?
Alors, ce qui fait que les personnes sortent de la délinquance, c'est le fait de passer à autre chose, de passer d'un style de vie déviant, délinquant, à un style de vie. Alors,
ça existe encore ce terme déviant pour parler des gens qui des délinquants? Alors,
oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, pour un style de vie déviant, dans le sens où des personnes qui aussi vont avoir des pratiques plus largement déviantes pas seulement que délinquantes.
Les étapes de rupture, ça serait quoi alors?
Alors, les étapes de rupture, ce serait de monter une famille, de trouver un emploi, donc de développer de simplement développer des liens avec la vie conventionnelle. Donc il y a finalement deux éléments à garder en tête. C'est le premier, c'est le fait qu'il y a effectivement une pression aussi de la rue, le fait d'être lassé par la rue, les risques, etc. Et puis le fait de pouvoir et pas forcément vouloir, ça c'est intéressant, on n'a pas forcément le choix, mais de pouvoir trouver d'autres liens ailleurs.
Et c'est l'heure des nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna Andrade.
Bonjour Malice, bonjour à tous.
Alors vous nous parlez aujourd'hui d'une directive du président Trump pour lutter contre l'immigration illégale aux États-Unis.
Oui, désormais, toutes les personnes franchissant illégalement la frontière états-unienne seront désormais suivies, poursuivies au pénal et placées en détention provisoire, qu'ils soient seules ou accompagnées de leurs enfants. Et c'est là que cette directive, qui aurait pu être perçue comme une énième décision inique du président américain, commence à faire du bruit. Car cette décision entraîne de facto une séparation des parents et de leurs enfants qui ne peuvent aller en prison et finissent donc dans des centres de rétention pour mineurs. Comme en témoigne Associated Press, les migrants sont ainsi amenés dans des centres de traitement comme celui de McAllen au Texas, puis sont triés en fonction de leur situation, adultes seuls, parents et enfants ou mineurs non accompagnés. Les enfants sont alors placés dans des cages en métal qui peuvent contenir jusqu'à une vingtaine d'enfants. Leurs parents sont envoyés vers des prisons fédérales.
Une législation qui n'est en réalité pas vraiment nouvelle.
Non, mais jusqu'à présent, les autorités privilégiaient des poursuites civiles et relâchaient les personnes migrantes en leur assignant une citation à comparaître, permettant ainsi d'éviter les drames que l'on a connus ces dernières semaines. Dans une sortie particulièrement cynique, le ministre de la Justice, Jeff Sessions, a pour sa part déclaré « Si vous faites passer un enfant en contrebande, nous allons vous poursuivre et cet enfant sera probablement séparé de vous comme l'exige la loi ». Si vous ne voulez pas que votre enfant soit séparé, ne l'amenez pas illégalement à la frontière. Ce sont ainsi près de 2000 mineurs qui ont été séparés de leurs parents entre le 19 avril et la fin du mois de mai, avec des centres de rétention pour mineurs qui ont atteint 95% de leur capacité d'accueil, selon la porte-parole du département de la Santé et des services sociaux.
Une politique revendiquée de tolérance zéro face à l'immigration illégale.
Oui, dans cette quête effrénée pour apparaître le plus ferme et intraitable possible, toute forme d'humanité est passée à la trappe. On a ainsi eu le témoignage sur les réseaux sociaux d'un enfant de 18 mois, violemment séparé de ses parents à la frontière mexicaine par les forces de l'ordre. Cette loi et son application rigoriste sont en réalité brandies par le pouvoir trumpien comme une arme d'ordre symbolique pour tarir le flux d'immigrés. Le fameux mythe de l'appel d'air, bourrasque bien connu des nationalistes conservateurs qui poussent hommes, femmes et enfants sur les routes de l'exil. En agitant cette menace d'une séparation des enfants et de leurs parents, le président Trump entend affirmer sa volonté d'airain sur un sujet particulièrement sensible pour son électorat, de l'usage des prisons comme une arme politique.
Une stratégie qui semble cependant lui échapper face au tollé qu'elle a déclenché.
Oui, car la polémique ne s'arrête pas là. Il semblerait en effet que les autorités états-uniennes aient perdu la trace entre octobre et décembre 2017 de près de 1500 mineurs censés avoir été placés dans des foyers d'accueil. C'est en effet ce qu'a avoué un fonctionnaire américain lors d'une audience face aux membres du Sénat américain. Lorsqu'ils sont placés en rétention, les enfants peuvent en effet sortir si un membre de leur famille ou un proche accepte de les prendre en charge. Il est donc possible que ces familles d'accueil ne souhaitent pas interagir avec les autorités américaines, notamment si elles accueillent ou protègent d'autres sans-papiers, et ne donnent donc pas suite aux appels des agents du service de l'immigration. Mais il est également possible que certains enfants soient tombés entre les mains de trafiquants, ce qu'avait d'ailleurs admis le département de la Santé en 2014, avouant des défaillances dans les procédures de protection des enfants. Si ces événements sont antérieurs à la décision de Trump, on peut toutefois s'inquiéter du nombre d'enfants perdus parmi les victimes de cette nouvelle chasse à l'homme.
Starts tripping, a tear drops my eye. My body temperature falls. I'm shaking, and they breaking, trying to save the dough. Pumping on my chest and I'm screaming. I stop breathing, damn, I see demons. Dear God, I wonder can you save me? I can't die, my boo-boo's about to have my baby. I think it's too late for praying. Hold up, her voice spoke to me and it slowly started saying,
bring your life down to me, I'll make it better.
And how long will I live?
Eternal life and forever.
Oh, will I be the G that I was?
I'll make your life better than you can imagine or even dreamed of. So relax yourself, let me take control. Close your eyes, my soul.
My eyes are closed. My coma. I got my mama and my daddy and my homies in my corner. It's gonna take a miracle, ain't safe for me to walk again and talk again. But anyway, I get running some keys to get back.
Murder was the case, Snoop Doggy Dogg. Merci Carole Desbarra et merci Alice Gaïa d'être venue parmi nous aujourd'hui. Carole Desbarra, je mentionne le titre de votre dernier ouvrage, The West Wing, au cœur du pouvoir. C'est paru au PUF et on peut vous lire également dans les pages de la revue Esprit, comme dans le numéro de mai dernier consacré aux engagements de Chris Marker. Quant à vous, Alice Gaïa, on vous souhaite très bon courage pour votre thèse et le reste des articles sont bien sûr disponibles sur le site franceculture.fr, site sur lequel vous pouvez vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Demain, nous terminons notre semaine par un débat consacré aux fonctions de l'enfermement.
No more indulging in juice. I'm on my way to Chino, rolling on the grape.